Le médecin des pauvres, première partie, un capitaine d'aventure. Chapitre 1, l'auberge des Champagnols. Il est indispensable de placer ici une très courte notice historique sur la situation de la Franche-Comté en 1638, c'est-à-dire 18 ans environ après la nuit sinistre du 17 janvier 1620, nuit dont nous avons raconté les incidents terribles dans le prologue de ce livre. Nous prions nos lecteurs de vouloir bien ne point dédaigner ces rapides détails. La Franche-Comté, nous le savons déjà, appartenait à l'Espagne depuis Charles Quint. À la mort de Philippe II, elle faisait partie de la dot de sa fille, l'infante Claire Isabelle Eugénie, qui avait épousé l'archiduc Albert d'Autriche. Il était spécifié dans l'acte de donation que si cette princesse mourait sans héritier, son patrimoine retournerait à la maison d'Espagne. Claire Isabelle Eugénie n'eut pas d'enfant, et en vertu de la clause précitée, la Franche-Comté, vers 1634, passa entre les mains du nouveau roi, Philippe IV. La Franche-Comté était alors divisée en trois bailliages. Le bailliage d'Amont, le bailliage d'Aval, le bailliage de Dôle. Vesoul, Besançon et Dôle étaient les chefs-lieux de ces trois bailliages. Un parlement, dont les états généraux nommaient les membres, administrait la province, et ce parlement, nous le savons, siégeait à Dôle. La Franche-Comté, bien qu'elle relevât de la couronne d'Espagne, jouissait d'une liberté très grande. Elle votait elle-même ses impôts, qui étaient intégralement dépensés dans le pays. Le roi d'Espagne se contentait du produit des salines et d'un don gratuit qui ne s'élevait pas annuellement à plus de 200 000 livres. La province devait aussi fournir à son suzerain un contingent de 4 régiments bien armés et bien équipés. En échange de ces redevances, les comtois pouvaient être admis aux dignités les plus hautes. Leur attachement pour l'Espagne était sans bornes, de même que la bienveillance de celle-ci pour eux. D'un autre côté, ils exécraient la France et le nom français. Et de 1635 à 1668, ils prouvèrent glorieusement cette haine par 33 années de lutte héroïque contre les projets d'envahissement de leurs formidables voisins. Le 19 mai 1635, le grand cardinal de Richelieu, sous prétexte qu'un corps de troupes espagnoles avait surpris la ville de Trèves, alliée à la France, et que Besançon avait donné asile au duc de Lorraine, Charles IV, dépouillé de ses états par Louis XIII, déclara la guerre à l'Espagne. Le 28 mai 1636, Condé mit le siège de Vendôle avec 20 000 hommes de pied et 8 000 chevaux. Il était accompagné du colonel Gassion et de Lameilleret, grand maître de l'artillerie. La ville fut vaillamment défendue par les conseillers Boivin, Béreur et Louis Pétret de Vesoul, par l'ingénieur Jean-Maurice Tissot, le brave commandant de Verne, le capitaine de Gramont, Girardot de Beauchemin, l'avocat Michoutet, le caporal Donneuf. En même temps, les corps francs du baron César Dussex d'Arnan et du capitaine Lacuzon harcelaient les Français. Le prince de Condé fut obligé de lever le siège à l'approche de Charles de Lorraine le 14 août 1636. L'année suivante, le duc de Longeville fit irruption dans la partie méridionale de la Franche-Comté et y porta le fer et le feu, tandis qu'au nord, Bernard de Saxe-Weimar, à la tête d'une armée suédoise, ravageait horriblement le pays. Voilà quel était l'état de la malheureuse province au moment où notre récit reprend son cours, après avoir franchi sans s'arrêter un intervalle de 18 années. Par un jour triste et froid du mois de décembre 1638, et au moment où l'Angélus venait de sonner, un cavalier bien enveloppé dans les longs plis de son manteau brun suivait au pas de son cheval fatigué la rue principale de la bourgade de Champagnols dans la Haute-Franche-Comté. Quelques chiens aboyaient, quelques paysans accouraient sur le seuil de leurs portes, attirés par le bruit des sabots du cheval, et quand le voyageur avait passé, ils le suivaient d'un regard curieux et étonné. Ce cavalier et sa monture arrivèrent devant une maison un peu plus grande et d'un peu meilleure apparence que celle qui l'environnait. Au-dessus de l'entrée principale se balançait une touffe de fougères desséchées, et sur le mur blanc se dessinaient en lettres noires les mots suivants. Au capitaine Lacuzon. Vernier, aubergiste. Donne à boire et à manger. Vanson, avoine et recoupe. Loge à pied et à cheval. Bon logis. Voilà mon affaire, pensa le cavalier. Et il descendit de cheval lestement, en criant d'une voix tout à la fois douce et sonore. Hé, mon hôte ! À cet appel, un homme de 55 à 60 ans, robuste encore malgré son âge et se redressant dans sa haute taille, sortit de l'auberge et répondit. « Voici l'hôte que vous demandez, messire. Faut-il mettre votre cheval à l'écurie ?»« Oui, et je vous recommande de lui donner litière abondante. Bon fourrage et double ration d'avoine. Je tiens à ce qu'il soit mieux traité que moi-même. »« Et vous avez, par Dieu, grandement raison, messire, » répliqua l'aubergiste. « L'homme a la langue pour commander et se faire servir. Mais le cheval est obligé de se contenter de ce qu'on lui donne, pauvre animal. » C'est donc au maître à prendre soin que rien ne manque à ce bon serviteur. D'ailleurs, le vôtre mérite d'être traité comme un prince. C'est une bête de grande race, de haute valeur, et qui doit être infatigable. Vous vous y connaissez, ce me semble. Pardieu, si je m'y connais. Mais je le crois bien que je m'y connais. J'ai servi 15 ans dans la cavalerie. Demandez plutôt au colonel Varoz des nouvelles de Jacques Vernier. Et qui sait si quelque jour, malgré mes 58 ans bien sonnés, je ne remettrai pas le pied à l'étrier. Il y a dans l'écurie la grise, qui est une fière jument, et qui me porterait bien, savez-vous? Et les pistolets d'arçon ne sont point tellement rouillés qu'ils ne puissent servir encore, en les fourbissant un peu, et mettre une balle à 50 pas dans le ventre d'un Suédois ou d'un gris. Enfin, suffit. Qui vivra verra, et vive le capitaine Lacuzon. Vous avez dû voir, messire, que j'ai placé mon auberge sous son patronage. Et que le diable ou que Bernard de Saxe-Weimar m'enlève, si ce patron-là n'en vaut point un autre. N'en déplaise à la bonne Sainte Vierge Marie et au grand Saint-Jacques que je vénère de tout mon cœur l'un et l'autre. Mais le capitaine Lacuzon est injuste, lui aussi, et sera peut-être un martyr, le martyr de la liberté. On devine que Jacques Vernier, cet aubergiste loyal et bon patriote, mais bavard, n'avait point donné cours à sa prolixité naturelle tout au beau milieu de la rue. C'est en conduisant à l'écurie et en installant devant un râtelier bien garni le cheval du nouveau venu qu'il se livrait consciencieusement à cette joie si douce de pérorer sans être interrompu. « Tenez, » reprit-il après un silence fort court, et en faisant passer sous les yeux du cavalier qui l'avait suivi le contenu d'une ample mesure d'avoine, « Regardez-moi ce grain, messire. C'est beau et lourd et sain comme l'œil. C'est de ma dernière récolte, et ça ne laisse rien à désirer. C'est digne de la monture de Charles de Lorraine ou du cheval de Lacuzon lui-même. » Le voyageur rendit justice au mérite exceptionnel de l'avoine en question, ce qui lui concilia aussitôt l'estime de Jacques Vernier, dont il ne tarda point à conquérir complètement les sympathies en admirant la croupe charnue, les formes robustes, le large poitrail, le poil luisant et les jambes sèches de la grise. Après s'être longuement étendu sur les qualités et les perfections de cet incomparable jument, le digne aubergiste ajouta. « Et maintenant, messire, maintenant que votre cheval a sa litière et sa provende, rien ne nous empêche de songer à vous. Mangerez-vous un morceau ? Volontiers. Les temps sont durs, on ne voyage guère. Je n'ai logé personne depuis plus de 8 jours, et j'ai grand peur que le garde-manger ne soit mal fourni. « Peu importe. N'eussiez-vous que du pain à me donner, je m'en contenterais parfaitement. »« Oh, vous aurez mieux que cela, messire. Vous aurez des gaudes froides. Vous aurez du lard et des œufs. Vous aurez un poulet auquel je vais tordre le cou. Vous aurez un bon morceau de fromage de la montagne. Et pour arroser tout ceci, vous aurez une vieille bouteille de vin des Arsures, qui est, comme vous savez, le premier vin du monde. »« Mon hôte, » dit le voyageur avec un sourire, « vous ne ressemblez guère à vos confrères les hôteliers. Vous m'annoncez d'abord que vous n'avez rien à me donner, et vous me servirez en réalité un festin de prince, tandis qu'ils ont la méchante coutume de vous promettre monts et merveilles pour vous faire faire en somme piteuse et maigre chair. » « Et par Dieu, messire, » répondit Jacques Vernier avec une expression de légitime orgueil, « cela est, ma foi, chose toute simple. Mes confrères ont pour enseigne, ou le signe de la croix, ou le soleil d'or, ou le grand Saint-Martin, ce qui n'engage à rien. Ils promettent plus qu'ils ne peuvent tenir, et ils sont dans leurs droits. Mais quand on a l'honneur, comme moi, d'écrire sur le mur de son auberge, au capitaine l'accusons, où l'on n'est qu'un gredin, quelque chose de pis qu'un suédois ou qu'un gris, où l'on se doit de tenir plus que l'on ne promet. Noblesse oblige, disent les gentilshommes, et ils ont raison. Moi, qui ne suis qu'un aubergiste, j'ai accommodé ce proverbe à mon usage. Je dis « enseigne oblige ». Et j'ai raison, mordieu. Le voyageur ne pouvait qu'approuver d'une façon complète les théories de son hôte. Il exprima son adhésion par le geste et par la parole, et il accompagna Jacques Vernier, qui l'introduisit dans la maison. La pièce dans laquelle ils pénétrèrent ensemble était la cuisine. En face de la porte d'entrée se trouvait une haute et large cheminée en pierre grise, portant sur son manteau les objets les plus disparates. Une longue carabine, retenue dans la position horizontale par deux crochets, une statuette en plâtre enluminée représentant Saint-Jacques de Compostelle, deux pistolets d'arçon, quelque peu rouillés et dont nous avons entendu l'aubergiste faire mention, un rameau de buis béni des Pâques dernières, et enfin un grand sabre de cavalerie. Une porte à gauche de la cheminée donnait accès dans le poêle. On nommait ainsi à cette époque en Franche-Comté, et l'on nomme de même encore aujourd'hui, une chambre contiguë à la cuisine, échauffée par la même cheminée. Une seconde porte à droite laissait entrevoir dans la pénombre les premières marches d'un escalier de bois qui conduisait à l'étage supérieur. Enfin, une troisième porte communiquait avec la grange d'où s'exhalait une bonne odeur de fourrage. Sur la muraille nue et blanchie à la chaux se voyait une grande image, très naïve et violemment peinturlurée de bleu, de rouge, de jaune et de vert, fixée par quatre clous à grosse tête. Cette image représentait le patron de la paroisse. Chaque année, le jour de la fête du pays, le ménétrier venait, avec un violon enrubanné, enlever cette image et la remplacer par une autre exactement pareille et recevoir en échange une petite somme qu'on lui donnait de bon cœur. Ceci constituait une contribution peu onéreuse, prélevée par la coutume sur tous les paysans franc-comtois, pauvres ou riches. Du côté opposé, un immense dressoir, en noyer poli, que l'âge et la fumée avaient rendu aussi noir que du vieux chêne, supportait de la vaisselle d'étain, brillante comme de l'argenterie, et quelques-unes de ces faïences naïves et charmantes que les amateurs de ce qu'on est convenu d'appeler le bibelot, et parmi eux l'auteur de ce livre, payent aujourd'hui volontiers au poids de l'or à l'hôtel de la rue de Rouault. Les ustensiles de cuisine, les seilles en bois de sapin bien blanc cerclées de fer luisant, pendaient de chaque côté du dressoir. Enfin, deux longues tables étroites, entourées d'escabeaux à trois pieds, complétaient l'ameublement de la cuisine. Une planche, suspendue au plafond par les deux bouts, ployait sous la lourde charge d'une demi-douzaine de miches de pain bis. Un crochet de fer soutenait sous le manteau de la cheminée un épais quartier de lard fumé, et des grappes de maïs blond, qu'on appelle en Franche-Comté, par abréviation, des turquies, pendaient à des perches transversales fixées le long des poutrelles de bois brut. Telle était, en 1638, la cuisine d'une auberge de village, telle elle est encore aujourd'hui. Dans cette pièce, une jeune servante coiffée de la caline franc-comtoise, vêtue d'un caraco de futaine brune et d'une jupe courte de droguet rayé qui laissait voir jusqu'au-dessus de la cheville ses jambes robustes chaussée de bas bleus, trottait à droite et à gauche, ébranlant le plancher sous l'énergique pression de lourds sabots garnis de peaux de mouton dans lesquels disparaissaient ses pieds larges et plats. Elle allait de la cheminée aux deux tables et des deux tables au dressoir. Ici, surveillant le contenu d'une imposante marmite qui bouillait à outrance, là, frottant les planches de sapin avec une vigueur toute masculine ou mettant en ordre quelques écuelles et quelques soupières. Bref, très occupée en apparence et faisant en réalité fort peu de besogne, selon la louable et constante habitude des servantes de toutes les époques et de toutes les hôtelleries du monde. Au moment de l'entrée du voyageur, que précédait Jacques Vernier, elle s'arrêta net, ébaucha une révérence et fixa sur le nouveau venu ses petits yeux noirs que la curiosité semblait agrandir. Dis donc, toi, hé, hey, la jeune Antoine, s'écria l'hôte, scandalisé de l'attitude de la jeune servante. Occupe-toi un peu à jeter un bon fagot dans la cheminée, au lieu de rester là, planté, à dévisager ce gentilhomme, comme si vous aviez gardé des gorées ensemble. Qui a un autre maître ? Répliqua fort gaillardement la jeune Antoine. Un chien regarde bien un évêque. C'est bon, fais ce que je te dis, et pas tant de paroles. Ça suffit, on y va. Mais ça n'empêche pas qu'un chien... Jacques Vernier frappa du pied avec impatience et interrompit ainsi la répétition du vieux dicton franc-comtois. La servante se tut et sortit en haussant les épaules pour aller chercher le fagot demandé. L'aubergiste mit à rire aussitôt qu'elle eut quitté la cuisine. À coup sûr, cette fille se montrait peu respectueuse à l'endroit de son maître qui ne s'en formalisait point. Hâtons-nous d'ajouter que l'aubergiste était veuf, ce qui explique bien des choses. « C'est jeune, dit-il, ça n'a point d'éducation, ça ignore les belles manières. Mais c'est honnête et travailleur, ça tient la maison propre comme un sou, du haut en bas. Et ça ferait au besoin le coup de fusil contre les Suédois ou les Français. Oui, pardieu. Asseyez-vous, messire, sur cet escabeau, sous la cheminée, et prenez un air de feu. Dans une minute, quand cette sotte fille aura jeté une bourrée sur ses charbons, vous verrez une belle flamme, claire autant qu'un jour de printemps, et rouge comme la crête d'un coq. » Le voyageur se débarrassa en ce moment du large manteau dans lequel il s'enveloppait et du chapeau de feutre noir, relevé d'un côté et orné d'une plume de héron, fichée dans sa ganse qui couvrait sa tête. Il jeta sur l'une des tables ce chapeau et son manteau, et il s'approcha de la cheminée. C'était un grand jeune homme de 23 ou 24 ans, très beau, presque trop beau, sous les longs cheveux d'un châtain cendré qui ruisselait autour de ses joues en boucles naturelles. Son visage, un peu pâle et d'un ovale parfait, avait la régularité, la délicatesse et la douceur d'un visage de femme. Et l'on aurait pu croire à un déguisement sans les moustaches fines et soyeuses, retroussées galamment en croc de mousquetaire au-dessus de sa lèvre supérieure, et surtout sans l'expression hardie, résolue, presque audacieuse de ses grands yeux d'un bleu profond, ombragés par de longs cils recourbés dont une beauté toute féminine aurait pu s'enorgueillir. Son costume était à la fois un habit militaire et un vêtement de gentilhomme. Il portait un pourpoint gris, des hauts de chausses de velours noir et des bottes à entonnoir garnies d'éperons d'argent. Une longue et large épée qui, dans une main adroite et courageuse, devait être une arme formidable, était suspendue à son côté par un baudrier de cuir écru brodé de soie verte. Ajoutons, pour compléter ce portrait rapide, que les pieds et les mains de ce cavalier, symptôme irrécusable d'une race pure, avaient une distinction singulière et irréprochable. « Ceci, pensa Jacques Vernier, tandis que le jeune homme s'approchait de la cheminée, ceci est un vrai seigneur, aussi sûr que le capitaine Lacuzon est le premier homme du monde. Et j'engagerai ma part de paradis que les choses sont comme je le dis. Oui, par Dieu, de par tous les diables. »
Le médecin des pauvres, première partie, chapitre 2. La grande trinité. La jeune servante, qui répondait au nom gracieux de Jeanne-Antoine, ne tarda point à rentrer, portant sur son épaule un fagot plus grand qu'elle. Ce fagot fut jeté dans la cheminée, et bientôt une flamme vive, pleine de pétiments joyeux, égaya la cuisine tout entière et mit des reflets miroitants sur les moulures du dressoir, sur les rebords des plats d'étain et sur le ventre rebondi des faïences à fleurs impossibles. Tandis que le voyageur s'installait auprès du feu, Jacques Vernier, gourmandant de façon joviale la bonne fille, qui d'ailleurs n'en allait pas plus vite, faisait mettre le couvert, tordait le cou à un poulet, cassait des œufs pour l'omelette, jetait un morceau de lard parmi les bouillons de la marmite, allait chercher à la cave la bouteille de vin des Arsures, couverte d'un vénérable réseau de toiles d'araignée. Bref, fidèle à sa fière devise, enseigne oblige, s'apprêtait à réaliser amplement tout ce qu'il avait promis et même quelque chose de plus. Le voyageur, un pied posé sur la tête large de l'un des chenets, appuyant son coude sur son genou et son front sur sa main, s'absorbait dans une préoccupation profonde et semblait complètement étranger à ce qui se faisait et se disait autour de lui. Il tressaillit lorsque l'aubergiste lui cria de sa bonne grosse voix sonore « Messire, le déjeuner est sur la table, et j'ose affirmer que vous n'en serez pas trop mécontent. » « Je le crois comme vous, mon hôte, » répondit le jeune homme en se levant. « Mais ne me tiendrez-vous point compagnie, et ne boirez-vous point avec moi un verre de ce vin respectable ?»« Si fait, pardieu, messire, je n'ai jamais refusé de répondre à une politesse. Vous êtes un gentilhomme, et je suis un manant. Mais le colonel Varose prétend, et je le prétends comme lui, qu'un vieux soldat peut trinquer avec tous les seigneurs de la terre. Celui qui dit cela est un homme de sens et de cœur. Mais voici deux fois déjà que je vous entends prononcer le nom du colonel Varose. Qu'est-ce donc que le colonel Varose ? Demanda l'inconnu. Jacques Vernier fixa sur son interlocuteur un regard que l'étonnement rendait stupide. « Il faut, messire, dit-il ensuite, il faut que vous soyez étranger et que vous veniez de bien loin. « En effet, je suis étranger, » répondit le jeune homme avec un sourire, « et je viens de bien loin. Vous n'êtes pas français, j'espère. »« Non, ni suédois. »« Suédois non plus. Et vous n'êtes partisan ni des Suédois ni des Français. »« Ni des uns ni des autres, je vous l'affirme. » »« À la bonne heure. » »« Eh bien, messire, le colonel Varose est un des membres de notre grande trinité. » »« De quelle trinité parlez-vous ? » Je parle de Varose, de Jean-Claude Prost et du curé Marquis, nos trois héros, nos trois géants. Et le capitaine Lacuzon, ne le comptez-vous pas ? Lacuzon et Jean-Claude Prost ne sont qu'un seul et même homme. Prost est son nom, Lacuzon est son surnom. Vous n'êtes pas au fait de la situation du pays, messire. Je sais que la Franche-Comté combat glorieusement pour son indépendance et qu'elle résiste depuis 2 ans à tous les efforts de la France, sa terrible et gigantesque ennemie. Oui, messire, et c'est en vain que le cardinal français, l'éminence rouge, le Richelieu, a lancé contre nous ses armées, sous les ordres du Condé d'abord, de Villeroy ensuite. Et comme ce n'était pas assez, la France a acheté des troupes suédoises commandées par l'ancien aide-de-camp de Gustave Adolphe, par le duc maudit de Saxe-Weimar. Je sais cela, et savez-vous aussi que tandis que Condé, le grand général, le prince du sang royal, reculait devant les murailles de Dôle. Savez-vous que le général suédois et son armée de bandits dévastaient nos montagnes, combattant avec le fer et avec le feu, empoisonnant les sources, tuant les enfants et les vieillards, violant les filles et les femmes, faisant de chaque ville un amas de ruines, de chaque village un monceau de cendres? Infamie, infamie! Ah, ceux qui font ainsi la guerre ne sont pas des soldats. « Ce ne sont pas des soldats non plus, messire, ce sont des pillards et des assassins. Mais il est arrivé ceci. Nos montagnards et nos paysans ont relevé tout à coup leur tête qu'on voulait écraser. De montagne en montagne, de vallée en vallée, le mot de liberté a couru, répété par toutes les bouches, agrandi par tous les échos. Alors, une population sauvage et forte a quitté ses champs et ses forêts et s'est fait des armes du soc de ses charrues et du fer de ses haches. Alors une armée s'est trouvée debout, et ce n'est pas une armée de brigands et de routiers, celle-là. Non, par Dieu, pas un des hommes qui la composent ne reçoit de solde. Ils combattent tous pour leur pays, pour leur maison, pour leur famille. Aussi, ce sont de vrais soldats. Et que le grand diable m'emporte, si Français et Suédois en peuvent dire autant. Et sans doute, interrompit le voyageur, Varose, Lacuzon et Marquis sont les trois chefs de cette armée. Vous devinez juste, messire. Nos francs-comtois ont choisi d'abord Jean Varose, un vieux soldat, brave comme son épée, mutilé dans 20 combats pendant ces guerres continuelles que les seigneurs se faisaient entre eux, et nommé colonel par le roi d'Espagne. J'ai servi sous Varose, messire, et honorablement je m'en flatte. Si jamais vous le rencontrez, parlez-lui de Jacques Vernier. Varose s'est chargé d'organiser la cavalerie, et pas un maréchal de France ne s'en serait tiré comme lui. Varose s'est donné un lieutenant, un bras droit, Jean-Claude Prost, qui bien vite est devenu son égal, presque son supérieur. Il a 22 ans à peine, savez-vous, notre capitaine Lacuzon ? L'âge d'un enfant. Et c'est un homme. Et quel homme ! Il commande nos partisans montagnards, nos corps francs. Et comme il les commande, et comme il est adoré par eux, tous sans exception, tous depuis le premier jusqu'au dernier, s'élanceraient pour lui dans un précipice ou traverseraient un incendie. Et vive le capitaine Lacuzon! Pourquoi donc ce surnom de Lacuzon? Parce que Jean-Claude Prost, préoccupé sans cesse du bon ordre de ses corps francs et du salut de notre province, est souvent absorbé, soucieux, et que ces deux mots patois, Lacuzon, veulent dire le souci. Ses soldats entre eux le désignaient ainsi, et le surnom lui en est resté. Et je crois bien que dans quelques années d'ici, on aura oublié Jean-Claude Prost pour ne se souvenir que du capitaine Lacuzon. Et le troisième, le curé Marquis. C'est le desservant du petit village de Saint-Lupicin, près de Saint-Claude. C'est un bon chrétien, c'est un bon prêtre, c'est un bon franc-comtois. Il a de tout cet homme, du cœur et de la tête. Il a le dévouement d'un saint et il a le courage d'un soldat. Et quel grand esprit! On parle du ministre du roi de France, du fameux cardinal, comme ils disent. Ah, si le curé Marquis était cardinal et ministre, on verrait comme ce Richelieu serait peu de chose à côté de lui. Marquis combat pour la Franche-Comté avec toutes les armes dont un homme et dont un prêtre peuvent se servir. Il combat avec la prière et il combat avec le glaive. Les jours de bataille, il marche en tête de nos montagnards, un crucifix dans la main gauche et une épée dans la main droite. Il invoque Dieu et il frappe. Et Dieu donne la victoire à sa prière et à son épée. Il faut le voir dans ces moments-là, tête nue, ses cheveux noirs au vent, sa robe rouge serrée autour de ses reins par une ceinture de cuir. Car il porte une robe rouge quand on va se battre. C'est sa cuirasse. Il n'en met pas d'autre. Et l'on prétend que les balles glissent sur cette robe couleur de sang, comme sur un corselet d'acier. Ah, vous aviez raison de le dire, s'écria l'étranger avec enthousiasme. Ces trois hommes sont trois héros, et la province qui les voit à la tête de ses défenseurs peut jusqu'à son dernier souffle d'agonie garder l'espoir de rester vivante et libre. Et ce souffle d'agonie n'arrivera jamais, répliqua Jacques Vernier. Aussi vrai que nous allons boire à la santé de Lacuzon et que je vais ensuite descendre à la cave pour en rapporter une seconde bouteille, plus vieille que celle-ci, de 5 ou 6 ans au moins. Le voyageur toucha du rebord de son verre le gobelet de l'aubergiste et tous deux, en approchant de leurs lèvres le vin généreux qui brillait comme des rubis de fusion, répétèrent d'une voix commune « À la santé du capitaine Lacuzon !» Jacques Vernier s'en alla quérir à la cave la bouteille annoncée, puis il revint se rasseoir en face du jeune homme, et la conversation, un instant interrompue, reprit son cours. « Dans quelle partie de la Franche-Comté est né le capitaine Lacuzon ?» demanda le voyageur. « Dans nos montagnes, messire, dans nos montagnes !» s'écria l'aubergiste avec orgueil. « Jean-Claude Prost est originaire du village de Longchaumois, à quelques lieues d'ici. La maison où il est venu au monde est située dans le champ sous le Dain, sur la lisière d'un petit bois qui se trouve entre le moulin de Dardet et le hameau de Combes. Et pas un paysan, depuis le commencement de nos guerres, ne passerait devant cette maison sans ôter son chapeau et sans dire un pater et un ave pour obtenir longue vie et prospérité au capitaine Lacuzon. Sa famille est-elle nombreuse? Non, et c'est un malheur, car bien que les Prost ne fussent point nobles, c'était une forte et pure race, une race d'honnêtes gens. Aujourd'hui, le capitaine Lacuzon est à peu près seul au monde. Quoi? Ni frère, ni sœur? Jean-Claude était fils unique. Il avait 3 ou 4 ans quand il a perdu sa mère, et son père est mort il y a 2 ans. Mais ne lui reste-t-il donc aucun parent? Il aurait été facile de remarquer un léger tremblement dans la voix de l'étranger, tandis qu'il adressait à l'aubergiste sa dernière question. Jacques Vernier répondit. Il lui en reste un, le frère de son père, Pierre Prost, que jadis on appelait dans le pays le médecin des pauvres. Et sans doute cet oncle habite avec lui. Non, et c'est une triste histoire que celle de ce pauvre Pierre, un savant et un homme de bien. Une triste histoire? Répéta le voyageur avec un accent interrogatif. Oui, il a toujours été bien malheureux, et il l'est encore. Que lui est-il donc arrivé? Demanda le jeune homme en pâlissant visiblement et en reposant sur la table le verre plein qu'il allait porter à ses lèvres. Pierre Prost, il y a 17 ou 18 ans, conduisit au cimetière sa femme qui venait d'accoucher d'une petite fille. Il paraît que le chagrin qu'il eut de cet événement lui tourna la tête, et on ne tarda guère à s'en apercevoir, car il commença, lui qui était un homme d'esprit et de bon sens, par donner à sa fille le nom d'Églantine, au lieu de l'appeler Jeanne-Antoine ou Jeanne-Marie, ou Jeanne-Claude, comme tout le monde. Mais ce n'est rien que cela. Vous allez voir. 2 ou 3 ans se passèrent, et un beau matin, un farinier du moulin de Dardet, qui s'était démis le bras en chargeant un sac de blé, vint frapper à la porte de Pierre Prost. « Eh bien, dit le voyageur, que se passa-t-il alors ?» Il se passa qu'il ne se passa rien. On ne répondit point au garde-moulin, et cela par une bonne raison. Le médecin des pauvres et sa fille avaient disparu pendant la nuit, laissant la maison à l'abandon. Tout le monde ignorait ce qu'ils étaient devenus, et il paraît que le propre frère de Pierre Prost n'en savait pas plus que les autres. Et ensuite ? Dame, ensuite, il se passa bien du temps. 15 ou 16 ans, un peu plus ou un peu moins, sans qu'on entendît parler du médecin. On le croyait mort, son frère ne prononçait jamais son nom. Et ensuite, répéta de nouveau l'étranger, prêtant une attention haletante à ces détails qui cependant devaient lui paraître insignifiants. Et ensuite, enfin, l'année dernière, Pierre Prost est revenu au pays. Avec sa fille ? L'aubergiste secoua la tête. Non, messire, répondit-il, il était seul. Et c'est pour cela que je vous disais tout à l'heure que Pierre Prost avait toujours été malheureux, et l'était encore. Il paraît qu'Églantine est morte. Morte ? Murmura le voyageur d'une voix sourde et altérée, tandis que son visage, déjà si pâle, devenait livide. Morte. Mais où? Mais comment? On n'en sait rien. C'est le bruit public. La chose m'a été répétée par des gens qui l'avaient entendu dire à d'autres. Vous comprenez? Pour ma part, j'y crois, mais un peu moins qu'à l'Évangile, cependant. Et je n'affirmerai point que ceux qui m'ont raconté cette mauvaise nouvelle ne m'ont point trompé, ayant été trompés eux-mêmes par ceux de qui ils la tenaient. Le voyageur ne répondit rien. Il semblait même ne plus rien entendre. Tandis que le digne Jacques Vernier prononçait les dernières paroles que nous venons de répéter, il avait appuyé ses coudes sur la table. Il cachait son visage entre ses deux mains, et si le regard eût pu plonger à travers ses doigts entrelacés, on aurait vu 2 grosses larmes se suspendre aux longs cils de ses yeux bleus. L'aubergiste, plus discret malgré sa loquacité prodigieuse que ne le sont d'habitude ses honorables confrères, avait quitté sa place en s'apercevant que l'étranger désirait garder le silence, et s'était assis sur une escabelle sous le manteau de la cheminée, après avoir décroché l'un des pistolets d'arçon qui se trouvait de chaque côté de la statuette de Saint-Jacques de Compostelle. Il occupait agréablement ses loisirs en fourbissant ce pistolet avec un peu de cendre et quelques gouttes d'huile de navette. 1 quart d'heure environ se passa ainsi. Au bout de ce temps, le voyageur releva la tête. Sa pâleur n'avait point diminué, et un large cercle de bistre se dessinait autour de ses paupières. « Mon hôte, dit-il, nous allons, s'il vous plaît, compter ensemble, et je vais me remettre en route. »« Déjà, messire, mais c'est tout au plus si votre cheval a fini de manger sa provende, et il n'a bien certainement pas eu le temps de se reposer. »« Et de par tous les diables, c'est une vilaine action que de surmener un bel animal comme celui-là. » « Il faut que je parte, il le faut. »« Mon auberge n'est point une prison, messire. On y entre comme on veut, on en sort de même. Ce que j'en disais n'était que par intérêt pour votre monture, pardieu. »« Je m'en vais lui donner à boire, je la sellerai et la briderai. Et ensuite, à la garde de Dieu. Bon voyage, que Saint-Jacques de Compostelle et le capitaine Lacuzon vous préservent des mauvaises rencontres. Voilà tout ce que je puis faire pour votre service, messire. » Vous vous trompez, mon hôte. Vous pouvez autre chose. Quoi donc? Vous pouvez me procurer un guide. Où voulez-vous aller, messire? Je veux aller à Saint-Claude. Jacques Vernier, stupéfait, frappa l'une contre l'autre ses 2 grosses mains. Miséricorde! S'écria-t-il ensuite. Vous voulez aller à Saint-Claude? Oui, qu'y a-t-il d'étonnant à cela? Il y a, messire, que vous n'arriverez point vivant. Vous serez assassiné avant d'avoir fait les 2/3 du chemin. Voilà ce qu'il y a. Assassiné, dites-vous? Par qui et pourquoi? Expliquez-vous. C'est facile. Par qui? Par les Suédois ou les Gris. Pourquoi ? Pour vous voler votre bourse, votre cheval et jusqu'à vos vêtements.
Mais, répliqua le voyageur, je croyais que les hostilités étaient momentanément suspendues et que les armées d'occupation venaient de prendre leur quartier d'hiver.
Et cela serait ainsi, sans doute, sans le comte de Guébriant, gentilhomme français au service de la Suède.
La semaine dernière, il a reparu dans la montagne avec un corps de troupes considérable. Il a ramené le pillage, le viol, l'incendie. Il tient en ce moment tout le pays, y compris entre Nozeroy et Saint-Claude.
Et Saint-Claude lui-même est depuis 2 jours en son pouvoir.
Vous voyez bien, messire, que puisque vous n'êtes ni suédois ni français, votre projet est insensé.
Le jeune homme fit un geste de découragement profond et presque de désespoir.
Tout me manque donc à la fois, murmura-t-il à voix basse. Puis tout haut, il ajouta, comme se parlant à lui-même.
Si je n'arrive pas vivant, qu'importe. Qu'est-ce après tout que ma vie, et qui donc maintenant me pleurera?
Oui, qui donc?
Mon hôte, continua-t-il en s'adressant à Jacques Vernier, je vous répète que je veux aller à Saint-Claude et que je vous demande un guide.
Ma foi, dit alors l'aubergiste d'un ton moitié haut, moitié bas, ma foi, je m'en lave les mains.
On n'a jamais vu chose pareille.
Hélas, qui faire? Un bon averti en vaut deux. Mais quand il ne tient pas compte de la vie, est-ce la faute de celui qui le donne?
D'ailleurs, le colonel Varose ne m'a point appris de recette pour empêcher un fou de faire sa folie.
Et peut-être bien qu'il n'en savait pas.
Enfin, à la grâce de Dieu,
celui qui, les yeux bandés, veut sauter du haut en bas du rocher de la Pucelle, sait bien qu'il n'en reviendra point.
Chacun pour soi, par Dieu.
Et le diable pour les Suédois de Saxe-Weimar.
Après avoir achevé ce monologue sentencieux et énigmatique, Jacques Vernier se décida à répondre à la demande du voyageur.
« Vous désirez un guide, messire ?
Et vous n'en avez pas besoin, dit-il.
Vous oubliez que je ne connais pas le pays ?
Ça n'y fait rien. Suivez la route qui passe devant mon auberge et allez-vous-en toujours tout droit. Après beaucoup de montées et pas mal de descentes, vous finirez par arriver à Saint-Claude.
Je crains que le danger dont vous m'avez parlé ne se double en suivant cette route. N'existe-t-il donc aucun chemin de traverse ?
Il en existe un, en passant par le Morbier, Orcières, la vallée de Morèze et Longchaumois.
Eh bien ?
Mais c'est un sentier à peine tracé. Bien difficile en toute saison, dans de certains endroits, pour un homme à cheval. Et qui doit être complètement impraticable dans ce moment où la neige le couvre en partie.
Les difficultés du chemin ne m'effraient point. J'ai toujours cru, et je crois encore, qu'une volonté déterminée triomphe facilement des obstacles physiques.
Procurez-moi donc un guide, et je partirai sans retard.
« c'est bon, messire, » répliqua l'aubergiste.
« On va vous contenter. Mais au moment précis où vous romprez les os, souvenez-vous de dire.
Ce n'est pas la faute de ce brave homme de Jacques Vernier qui m'avait bien mis en garde. »
Et ça ne sera que l'exacte vérité. »